Alice. Aucun cas répertorié, répondit l'homme de science, non sans arrière-pensée. Des golfeurs avaient succombé en frappant leur trou du premier coup. Une proportion atypique d'Allemands trépassait d'une crise cardiaque chaque fois que l'équipe de football allemande disputait la Coupe du Monde. Des hommes étaient morts un ou deux jours après leur femme. Des femmes en perdant leur mari, et parfois au profit d'une autre. Des parents qui avaient perdu un enfant. Tous mouraient de chagrin, tous de mort subite. Ces exemples d'état émotionnel, ayant amené l'arythmie meurtrière, étaient absents du rêve de Juan Diego. Pourtant, le bruit du pick-up de Rivera, le gémissement si particulier de la marche arrière, s'y insinua sans nul doute au moment où le train d'atterrissage sortit de l'avion qui arrivait à Bohol. Ainsi font les rêves. Telle l'Église catholique, ils valident et s'approprient plus qu'ils ne créent. Dans le rêve, tout se confond. Le grincement de l'appareil lors du vol Philippine Airlines 117 et le gémissement de la marche arrière. Mais quant à savoir comment une odeur viciée, en l'occurrence celle de la morgue de Huachaca, s'infiltrait dans le rêve de Juan Diego lors de ce vol, tout ne s'explique pas, il faut bien en convenir. Rivera savait où se trouvait le quai de charge de la morgue, et il connaissait aussi le légiste qui ouvrait les corps dans l'amphithéâtre de dissection. Le frère et la sœur, eux, jugeaient superflu cette autopsie. La Vierge Monstre avait fait mourir leur mère de peur, tout à fait sciemment de surcroît. Rivera avait de son mieux préparé Loupé à l'aspect du cadavre couturé depuis la base du cou jusqu'à l'aine via le sternum. Mais ce à quoi l'adolescente ne s'attendait pas, c'était le nombre de corps en souffrance attendant leur autopsie, ou encore le fait que celui du gringo, bras étendus, on aurait dit une descente de croix, se détachait par sa blancheur sur tous les autres, à la peau mate. Tout récemment ouvert et recousu, il portait à la tête une entaille que la couronne d'épines n'aurait pas suffi à lui infliger. Le brave gringo avait livré son dernier combat. Loupé et Juan Diego eurent un choc en découvrant son cadavre relégué là. Et si Jésus tatoué sur sa peau claire avait eu à souffrir du bistouri, la face christique du jeune Américain arborait enfin une expression sereine. Il n'échappa pas à Loupé que le corps de sa mère et celui du brave gringo étaient les plus beaux de l'amphithéâtre, même s'ils étaient plus beaux encore de leur vivant. « On va emporter celui du gringo aussi. Tu m'as promis qu'on le ferait brûler, » rappela Loupé à son frère. « On va le brûler avec notre mère. » Rivera avait réussi à persuader le légiste de leur donner le corps d'Esperanza, mais quand Juan Diego traduisit la requête de sa sœur, le médecin piqua une crise. Le décès du fugitif américain faisait l'objet d'une enquête criminelle. À l'hôtel Omega, on avait raconté qu'il avait succombé à un coma éthylique. Une prostituée avait confié qu'il était mort sur elle, mais les conclusions du légiste étaient tout autres. El Gringo Bueno avait été battu à mort. Ivre, certes, mais ce n'était pas l'alcool qui l'avait tué. « Il faut que son âme retourne dans son pays, » répétait Loupé. Un jour que je marchais dans les rues de Laredo, se mit-elle tout à coup à chanter. Un jour que je marchais dans Laredo. Dans quelle langue est-ce qu'elle chante, la petite ? Demanda le légiste à Rivera. La police ne bougera pas le petit doigt, dit Réfé. Les flics ne veulent même pas convenir qu'il a été battu à mort. Ils parlent d'intoxication par l'alcool. Le légiste haussa les épaules. Ouais, c'est ce qu'ils racontent déjà. Je leur ai dit que le tatoué avait été battu, mais ils m'ont répondu de fermer ma gueule. « Intoxication par l'alcool, ce sera leur version, » dit Rivera. « La seule chose qui compte maintenant, c'est l'âme du gringo, » insista Loupé, ce que Juan Diego décida de traduire. « Et si sa mère veut récupérer le corps, » ajouta-t-il cependant, « elle a réclamé les cendres. La crémation n'est pas la procédure habituelle avec les étrangers, » expliqua le médecin. « On n'aurait pas l'idée de les brûler sur le basurero. » Rivera haussa les épaules. « On vous les donnera, les cendres, » lui assura-t-il. « Il y a deux corps, » intervint Juan Diego. « On gardera la moitié des cendres pour nous. »« On les emportera à Mexico et on les dispersera à la basilique de Nuestra Señora de Guadalupe, au pied de notre Vierge à nous, parce qu'il n'est pas question qu'on s'approche de la Sainte Garce qui n'a plus de nez, » s'écria Lupe. Cette petite parle une langue qui ne ressemble à aucune autre, et sa voix alors, s'étonna le légiste. Mais Juan Diego se garda bien de traduire ce qu'elle avait dit quant à la dispersion des cendres au pied de Notre-Dame de Guadalupe. Sans doute pour ne pas choquer l'adolescente, Rivera exigea que le corps d'Esperanza et celui du gringo soient placés dans deux sacs différents, et, avec Juan Diego, il aida à les y glisser. Le temps de cette funèbre besogne, Lupe observa les autres cadavres, ceux déjà disséqués et ceux en attente, ceux qui ne comptaient pas pour elle, autrement dit. Juan Diego entendait Diablo aboyer et hurler à l'arrière du pick-up. Le chien flairait cette odeur viciée qui émanait de la morgue. L'anfithéâtre des dissections sentait la viande froide. Comment ça se fait que sa mère ne veuille pas voir son corps avant? Demanda Lupe. Comment une mère peut se contenter des cendres? Esperanza n'aurait peut-être pas voulu être incinérée, mais les enfants en avaient décidé ainsi. Catholique fervente et pratiquant abondamment la confession, elle n'aurait peut-être pas choisi la décharge pour bûcher funéraire, mais lorsque le défunt ne laisse pas de consigne particulière, la décision revient à ses enfants. Ils sont fous, ces catholiques, de ne pas accepter la crémation, disait Lupe. Il n'y a pas mieux que la décharge pour tout brûler. La fumée noire s'élève jusqu'au plus haut du ciel, les vautours planent sur le paysage. Elle avait fermé les yeux et serrait l'affreuse statuette de Coatlicue contre ses seins qui peinaient à s'arrondir. Tu as toujours le nez, hein? Demanda-t-elle à son frère en rouvrant les yeux. Bien sûr, tiens, lui répondit celui-ci dont la poche faisait une bosse. On le fera brûler avec, on ne sait jamais. On ne sait jamais quoi. Pourquoi veux-tu brûler ce nez? Pour le cas où Marie, l'usurpatrice, aurait des pouvoirs qu'on n'imagine pas. La narice? Demanda Rivera qui avait hissé un sac mortuaire sur chacune de ses larges épaules. De quel nez vous parlez? Ne lui dis rien, il est trop superstitieux. Il aura qu'à deviner tout seul. Il verra bien que la Vierge monstre a perdu son nez la prochaine fois qu'il ira à la messe ou bien à la confesse. J'arrête pas de lui dire, mais il m'écoute pas, sa moustache, c'est un péché. Lupe vit que Rivera tendait l'oreille. Le mot narice avait attiré son attention. Il essayait de deviner de quoi il retournait. Trouvez-moi six vaillants cow-boys pour porter mon cercueil, entonna Lupe. Six jolies demoiselles pour porter les cordons du poêle. Car le moment était venu de chanter le traîne du cow-boy. Rivera charriait les deux corps jusqu'à son pick-up. Placez des bouquets de roses sur mon cercueil, chantait Lupe. Elles amortiront le choc des mottes de terre. C'est un phénomène, cette petite, dit le légiste au patron de la décharge. Il faut en faire une rockstar. Elle, comment voulez-vous qu'on en fasse une rockstar? Il n'y a que son frère qui la comprenne, objecta Rivera. Personne ne comprend ce que chantent les rockstars. Les paroles n'ont ni queue ni tête, répliqua le légiste. C'est pas par hasard que cet abruti passe sa vie avec des macabées, commenta Lupe. Mais l'allusion au rockstar fit oublier le problème du nez à Rivera. Il emporta les deux sacs jusqu'au quai de charge et les déposa tout doucement dans la benne du pick-up, où Diablo se mit à les renifler avec ardeur. Ne le laisse pas se rouler sur les corps, enjoignit Rivera à Juan Diego. Ils savaient tous trois que le chien adorait se rouler sur la chair morte. Juan Diego monta dans la benne avec les corps d'Esperanza et du gringo, sans oublier Diablo. Lupe s'installa dans la cabine avec Rivera. Les jésuites vont rappliquer, dit le médecin au patron de la décharge. Ils vont venir prendre leurs ouailles, ils voudront le corps d'Esperanza. Les enfants sont habilités à prendre en charge la dépouille de leur mère. Tu leur diras que ceux-là sont les ouailles d'Esperanza. La petite, c'est un phénomène de cirque, tu sais, lança le légiste en désignant Lupe assise dans la cabine. Qu'est-ce qu'elle y ferait? Les gens paieraient rien que pour l'entendre parler. Elle n'aurait même pas besoin de chanter. Plus tard, Juan Diego serait hanté par le fait que ce légiste, avec ses gants en caoutchouc et son odeur de mort et de dissection, avait introduit le cirque dans la conversation ce jour-là, à la morgue de Oaxaca. Démarre, lança-t-il à Rivera en tambourinant des poings sur la cabine. El Jefe quitta le quai de charge. Dans le ciel bleu vif, il n'y avait pas un nuage. Va pas te rouler sur eux, ordonna Juan Diego à Diablo. Mais le chien restait assis, placide, dans la benne. Il regardait fixement l'adolescent et ne faisait même pas mine de renifler les cadavres. Bientôt le vent sécha les larmes sur les joues de Juan Diego, mais il l'empêcha aussi de saisir